Ici Louis pour RDIWA. Je suis en compagnie de Juan Huichara, un Indien Mapuche du côté chilien qui souhaiterait relayer le combat des prisonniers politiques Mapuche qui sont en prison suite à des manifestations pacifiques ayant eu lieu au Chili pour défendre leurs intérêts. 20 d'entre eux sont d'ailleurs en grève de la faim depuis le 12 juillet. Bonjour Juan.
Bonjour.
Donc tu es Mapuche du côté chilien, c'est-à-dire que tu ne te sens pas chilien alors?
Et on va dire que le peuple mapuche, il existait tout le temps dans les deux côtés de la cordillère des Andes. Alors jusqu'à un moment, toutes nos institutions, nos organisations de comme peuple, ils sont encore vivants. Et puis c'était juste la division administrative après qu'ils ont créé l'État chilien en leur temps qu'on était divisés. Mais ça ne veut pas dire qu'on se sent vraiment soit argentin, soit chilien. On fait valoir notre identité plutôt indienne, quoi, que c'est Mapuche.
Qui n'est pas reconnu dans les constitutions argentines et chiliennes. Vous n'avez pas l'impression d'être reconnu comme ethnie minoritaire.
Voilà, la reconnaissance qu'il y a, par exemple, au côté argentin, ils reconnaissent le peuple, la préexistence d'un peuple, mais ils l'appliquent pas, quoi. C'est pas appliqué à niveau de respect des institutions et puis tout ce qui ça signifie. Ça veut dire toute la décision qu'il faut prendre dans les territoires, c'est pas les Mapuches qui les prennent et avec tous les droits qu'il faut. C'est plutôt les gouvernements, l'institution argentine qui les font. Alors ça veut dire que dans la pratique, ça se fait pas. Alors côté chilien, il y a une reconnaissance. Mais comme ethnique, pour nous, c'est pas assez, parce qu'on voulait être reconnu comme peuple. Ça fait que dans la pratique, on peut arriver à gérer nos propres destins à niveau administratif, à niveau économique aussi. Que ça se passe aussi pour la décision de savoir quel projet dans nos territoires, c'est bien ou c'est pas bien pour nous. Voilà.
Ça représente combien de personnes, le Mapuche? Parle-nous un peu des Mapuche, d'où ils viennent, comment vivent-ils, leur mode de vie et puis leur histoire un petit peu, d'où viennent-ils?
Bah, le peuple Mapuche, il existait tout le temps dans les terres où il n'y a pas beaucoup de terres qui restent encore sur place. Et puis c'est un peuple qui vivait à l'époque avant de la colonisation espagnole, de la chasse et un type de la petite agriculture. Mais c'était un peuple qui jamais il a construit des grosses structures, comme on peut dire les Incas, les Mayas ou les Aztèques. C'était plutôt un peuple un type nomade, mais dans son territoire. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une organisation, il n'y avait pas de connaissances, il y avait des connaissances de beaucoup de choses, quoi. Et puis autre chose, c'est l'unique peuple qui a fait une résistance assez longue en face des colonisateurs espagnols. Et puis l'arrivée à l'époque de la colonisation, ce peuple originaire, il a réussi à signer des contrats après des 300 années de guerre. Et 3 siècles de guerre contre les Espagnols, ça fait que les Espagnols ils ont accepté de s'asseoir et d'arriver à parler avec les dirigeants mapuches à l'époque-là pour signer des contrats frontières et commerciaux à l'époque-là. Alors ça veut dire que c'était un peuple qui s'était reconnu déjà à l'époque-là. Je parle des derniers traités qui s'est fait avec les Espagnols quand les Chiliens n'existaient pas. C'était au début de 1800, en 1810, c'était encore un peuple autonome. Même si le Chili s'est créé 10 années plus tard, en 1820, 1818, c'est la création de l'État chilien. À l'époque-là, le peuple mapuche, il était un peuple autonome dans son territoire et puis qui décidait qu'est-ce qu'il fallait faire dans cette terre, dans son territoire. Et puis après, c'est juste quel gouvernement chilien, l'État chilien à l'époque-là, à la fin du 19e siècle, non, au début, pardon, il a décidé de faire une invasion militaire au territoire mapuche. C'est là qu'on a commencé à être dépendant de l'État chilien. Ça veut dire, si on fait le compte, ça fait pas longtemps, 100 années, quoi.
En Argentine et au Chili, combien de personnes représentent-ils?
Côté chilien, c'est le 10%, et puis côté argentin, c'est environ demi-million de personnes mapuches.
Et ils vivent de quoi alors en général?
Bah, côté chilien, c'est des petites parcelles, ce sont des petites parcelles. Alors, ils vivent de l'agriculture à l'élevage, petit élevage, en bois d'Achille. Côté argentin, c'est pareil. Et puis après, bah, il y a un bon pourcentage des populations mapuches, surtout la nouvelle génération, qui sont immigrés en ville.
Comme toi, qui est parti
Voilà.
même en
Voilà.
Europe pour essayer
Voilà.
de trouver une solution, quoi.
Voilà. Mais par contre, on continue à défendre nos identités d'Indiens. Ça veut dire qu'on a la conscience d'appartenir à un peuple millénaire. Et puis, dès qu'il y a un problème, là, on est un seul, quoi, un seul peuple.
Est-ce qu'ils habitent dans des régions où ils sont presque autonomes ou est-ce qu'ils sont dispersés partout un petit peu?
Et en fait, l'histoire, c'est qu'après que l'État chilien il a envahi le territoire militairement, quoi, c'est eux qui sont désignés une espèce de petit territoire pour placer tous les Indiens à l'époque-là, qui c'était pas important pour nous à l'époque. Là, ils sont placés les Indiens qui sont survécu à l'invasion. Puis ils sont beaucoup qui sont fait tuer. Et voilà, c'était les endroits les plus montagneux à l'époque-là, c'était pas bon pour l'agriculture. Mais ils se sont rendus compte qu'au bout des années plus tard, ils se sont rendus compte que où ils ont placé les Andes, aussi il y avait des richesses dans le sous-sol.
En minière.
Voilà. Et maintenant, ça commence à devenir cette politique-là, de faire pression sur cette terre que les Indiens, là où ils sont placés, pour dégager, quoi. Faire dégager les Indiens pour chercher ces minéraux, quoi.
Tu vas nous parler peut-être de la grève de la faim de certains prisonniers politiques. Je croyais que depuis que le général Pinochet était parti, que c'était redevenu une démocratie, le Chili, non? Comment peut-on être prisonnier politique au Chili en défendant pacifiquement, d'après ce que tu m'as dit, les intérêts des Mapuches? Comment peut-on être mis en prison?
Bah, en fait, il faut savoir que après que Pinochet il a lâché le pouvoir, c'était plutôt, à grosso modo, c'était une affaire d'échange entre les partis politiques à l'époque-là, en 1990. Et ils sont arrivés en accord justement pour plutôt donner une image de démocratie dans le Chili. Mais Pinochet, il a continué aux commandes de la force armée. Mais ça, c'est une chose à l'époque. Et aussi la constitution, les pilières basses, ils n'ont pas changé la constitution, qui c'est la même constitution que l'avait à l'époque de Pinochet. Alors, c'était plutôt un blanchissement des démocraties, quoi. La politique, ça changeait pas. L'économie, c'est la même chose. Bien sûr, il n'y avait pas le couvre-feu tout le temps, quoi. Ça changeait, quoi. Mais à grosso modo, dans la base, ça changeait pas le fond des problèmes. Ça veut dire que pour l'image internationale, c'était vraiment une démocratie. Mais par rapport à la situation à l'intérieur du pays, ça a devenu de plus en plus complexe. Parce qu'il n'y avait pas vraiment à quoi se soutenir. Et normalement, c'était en démocratie. Si tu fais un manif, c'était quelqu'un qui était hors de question. C'était quelque chose un peu qui n'avait pas d'explication pourquoi tu fais un manif si tu es en démocratie. Alors ça fait que c'était juste l'hypocrisie d'une fausse démocratie. C'est pour ça que les Mapuches, au bout d'un moment, avec une politique néolibérale capitaliste, mais à l'estilo nord-américain, sans aucune protection là-dessus, il a fallu que la défense soit de nous-mêmes. Alors c'est là que, comme il n'y avait aucune ressource, aucune organisation pour se soutenir, c'est les mêmes Mapuches qui ont commencé à revendiquer, à défendre leurs terres. Parce que c'était quelque chose déjà invivable. Il y avait des grosses implantées dans les territoires Mapuche, des grosses entreprises multinationales et forestières qui commençaient à faire vraiment des dégâts, pas seulement pour les Mapuches, pour toute la planète, hein, et pour la population qui sont tout autour, d'abord, quoi. Qui en fait, là, les entreprises multinationales, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est couper toute la forêt originaire pour planter des sapins et eucalyptus. C'est des forêts, c'est des monocultives qui consomment beaucoup d'eau et aussi ils désertifient la terre. Alors c'est devenu que les petites terrains qui étaient tout autour de cette grosse terrain des multinationales, ils sont venus désertiques, sans eau pour les animaux, sans eau pour l'être humain. Alors la unique manière, c'est de se révolter pour arriver à faire changer un petit peu la situation du pays, là, pour être écouté. Et avec ça, on arrivait à sortir un petit peu la situation de la problématique mapuche à l'extérieur, dans le Chili un petit peu, parce qu'en fait, tous les moyens de communication là-bas, c'est tout est dans le contrôle de la bourgeoisie très 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 des droits et conservatrice, quoi.
Quelles sont les principales revendications des Mapuches? Alors, c'est au niveau des terres, au niveau de la loi, au niveau de la reconnaissance?
Les principales revendications, c'est la défense du territoire qui reste, de la terre qui sont dans le contrôle des Mapuches, qui c'est pas assez déjà. Et après, c'est la récupération d'une partie du territoire qui s'est pas habité pour les gens qui se disent qu'ils sont propriétaires de ces terres, que ces terres appartenaient à les ancêtres mapuches. Et voilà, maintenant, c'est des gros plantations forestières. Il n'y a personne qui habite là. C'est juste l'investissement économique que le Chili, qu'État, ils disent que ça fait partie de l'économie, d'intérêt national. Voilà, et puis nous, on dit que c'est faux, parce que là où il y a des entreprises multinationales, il n'y a aucun Mapuche qui travaille. Et ceux qui travaillent, c'est le minimum en quantité, quoi. Ils mal payés en plus. Voilà, alors nous, on dit que cette terre, c'était piqué pour les Chiliens, d'une manière ou de l'autre. Et puis nous, en disant qu'on veut récupérer cette terre. Et puis dans cette dynamique-là, c'est qu'ils sont tombés en taule, les gens qui sont en prison maintenant. Et puis après, ça fait pas longtemps qu'ils ont commencé à appliquer cette loi pinochetiste, c'est la loi antiterroriste. Ça fait que pour un simple manif, ça peut être commun de rester en prison pour des ordres et tout. Ça peut aller pas plus de temps qu'avec ces lois. Déjà, par exemple, tu peux rester 12 années en prison préventive sans être condamné, sans savoir pourquoi tu es en taule, quoi. Après, des 12 ans, tu peux être condamné et puis il y a deux juges qui te jugent pour la même chose. C'est la justice militaire et la civile, quoi. Voilà, c'est pour ça que c'est important la non-application de la loi antiterroriste. Avec ça, s'il y a une bonne défense de la part des avocats particuliers, les gens qui sont en taule, normalement, devraient être déjà libres.
Tu m'avais parlé juste avant l'entretien d'une grève de la faim d'un certain nombre de prisonniers politiques. Il y en a combien des prisonniers politiques, Mapuche?
Il y a environ des 50 en différentes prisons du Sud. Mais ils sont une vingtaine qui ont commencé à faire la grève de faim. Et puis après, il y a une centaine déjà qui sont passés, qui sont en liberté, mais qui sont processés. Qui sont, par exemple, en liberté conditionnelle, en train de signer tous les mois. Voilà, mais c'est tout le temps, c'était la même chose, pour le même motif, quoi.
D'accord.
La mobilisation pour défendre la terre, pour la récupération des terres. Il n'y a pas autre chose, quoi.
Alors, et qu'est-ce que tu espères grâce à ton intervention dans notre radio? Alors, est-ce que tu as un message à faire passer? Est-ce que tu essaierais de monter une mobilisation? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, occidentaux, loin du Chili quand même?
Ouais, l'objectif, c'est un peu, comme j'avais dit, tous les moyens de communication là-bas, soit la télévision, soit les journaux au Chili. C'est un blocage complet, quoi, des informations et tout ça, parce que c'était contrôlé pour les partis vraiment de droite là-bas et qui sont liés à les intérêts économiques de la multinationale et puis les gros propriétaires des terres. Il n'y a aucune information qui circule là-bas sur la défense des prisonniers qui sont en tôle. Alors, l'unique, on cherche la manière de casser un petit peu cette espèce de blocage qui fait l'État chilien par rapport à la revendication mapuche. Même la population chilienne, elle ne savait même pas si, pourquoi ils sont en tôle les gens qui sont maintenant en grève de faim. Parce qu'ils ne sont pas communiqués. Ils sortent jamais une information qui soit véridique. Quand ils sortent quelque chose sur les Mapuches, c'est quelque chose de très déformé, quoi. Et voilà, et puis l'idée, c'est casser un petit peu ces blocages informatifs. Et puis pour ça, c'est tout ces biens, quand par exemple un étranger, voilà, moi je profite dès que moi je suis là, et puis. Ça, quelque chose qui ça me fait la peine de voir mes frères en train de se battre là-bas. Et alors, pourquoi pas, si j'ai la possibilité de dire quelque chose qui se passe là-bas, ici, comme ça, si jamais il y a des gens qui vont écouter cette radio et tout ça, ils vont être déjà informés de ce qui se passe au Chili. Et dès qu'il y a des campagnes, tout ça, des signatures, ça peut aller meilleur après. Ça peut aider déjà à être informé. Parce que c'est un combat qui ça va pas finir en cours de temps, quoi. Ça va continuer. C'est un problème politique, c'est un problème économique, c'est un problème des systèmes.
Est-ce qu'il existe un réseau de Mapuche un peu partout dans le monde qui s'organise pour relayer cette information?
Il y a des assos. Ici en France, il y a des assos qui défendent la cause mapuche, des petites assos, quoi. Et voilà, ils font des activités. Aussi, il y a tout le réseau sur Internet, il y a les pages web sur les mapuches. Et puis là, il y a des communiqués, il y a tout ce qui se passe. En français, il n'y a pas beaucoup, mais il y a deux ou trois pages que là où les gens pour naviguer, pour savoir ce qui se passe. Après, il y a d'autres associations à niveau européen. Mais c'est des petites ressources. On fait
Ce qu'on peut.
avec, quoi.
Juan, est-ce que ça te dirait de donner tes coordonnées si des auditeurs d'RDIWA se sentaient un peu interpellés par ce sujet et souhaiteraient relayer ces infos et puis avoir eux-mêmes d'autres informations sur ce combat des Mapuche?
Bah oui, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec ça. S'il y a des gens qui sont intéressés, je suis volontiers et partant de donner plus de coordonnées de tout ce qui se passe là-bas. Puis si jamais on peut parler directement, alors pour ça, je vous laisse mon email et mon numéro de téléphone. Alors par rapport à mon prononciation, je laisse plutôt un collègue là qui va expliquer le numéro et puis mon email.
D'accord, alors pour les gens qui sont intéressés pour contacter Juan, le mail c'est kunkoche, KUNKOCHE, @hotmail.com et son numéro de téléphone c'est 06 66 76 43 73.
Voilà.
Très bien. Eh bien écoute, bon courage.
Merci.
Et puis, écoute, reviens si tu as d'autres éléments d'information sur ce qui se passe en ce moment concernant ces grévistes de la faim. On leur souhaite de pouvoir impacter un petit peu sur le cours des événements. À bientôt.
Oui, il n'y a pas de problème ici.